Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bonjour chez vous, chers auditeurs, auditrices et amoureux du magazine Bana Okapi. Votre magazine préféré met un accent particulier sur le danger de la désinformation en temps de guerre. À l'ère de l'information en continu, d'Internet et des réseaux sociaux, nous devons nous rappeler que derrière tout conflit armé, se joue une guerre médiatique où la communication joue un rôle crucial. Ceci donne l'opportunité aux dirigeants de pays en conflit de justifier leur opération spéciale et de se faire passer pour des libérateurs. La propagande et la désinformation ont depuis longtemps été utilisées comme des armes politiques et militaires, quel que soit le pays ou la période de l'histoire. Contrôler l'information et les médias, c'est assurer un contrôle de la population, car l'information influence directement nos pensées, nos émotions, nos comportements et nos opinions. Raison pour laquelle certains dirigeants contrôlent la quasi-totalité des médias dans leur pays. Restez avec nous et ensemble, nous allons découvrir les dangers de la désinformation en temps de guerre dans ce magazine que présente Sarah Sumbela. La mise en onde est assurée par Dieudonné Nyangassa. Polydor Basunga est à la prise de son, une réalisation de Gisèle Cage et Stanislas Diomi, sous la supervision de Jean-Marc Matouaké Mofelele, Dijano. Malgré les sérieux de ces sujets, commençons quand même sur une note de bonne humeur, question de joindre l'utile à l'agréable. Chers auditeurs, merci de rester avec nous. Je rappelle que ce magazine met en lumière le danger de la désinformation en temps de guerre. Comme nous l'avons tantôt dit dès l'entrée de jeu, la propagande et la désinformation ont depuis longtemps été utilisées comme des armes politiques et militaires, quels que soient les pays ou la période de l'histoire. Contrôler l'information et les médias, c'est assurer un contrôle de la population, car l'information influence directement nos pensées, nos émotions, nos comportements et nos opinions. Dans le cas le plus extrême, la désinformation peut servir à déclencher et alimenter un conflit, une guerre, voire un génocide. Lors des guerres, généralement, les esprits des citoyens sont préparés, influencés et conditionnés pendant de mois, notamment via la radio, télévision et médias qui diffusent des messages de haine envers les autres parties. Elle va jusqu'à inciter les uns à s'en prendre physiquement aux autres et à les éliminer. Ce magazine part donc de Kinshasa où Grâce Vosolo tente de savoir ce que savent les jeunes de la désinformation. On écoute.
Bonjour Sekera.
Oui, bonjour.
Comment fais-tu pour reconnaître qu'une information est vraie ou fausse?
Premièrement, quand j'écoute la nouvelle, j'essaye de me renseigner. Si je l'entends deux ou plusieurs fois chez une personne, je pourrais me dire peut-être c'est vrai, mais je ne serai pas toujours assuré. Il faut que j'aille peut-être dans un site là, je pose des questions et si on me répond que non, c'est réellement ce qui se passe là, je pourrais confirmer.
Pour moi, en fait, lorsque je reçois une vidéo, la première des choses que je fais, c'est d'abord rechercher à voir dans la vidéo si réellement il y a des contenus qui peuvent être vrais ou fausses. Après, je pourrais faire, par exemple, des recherches ou demander à quelqu'un qui est proche pour essayer de voir si cela est vrai ou pas.
Normalement, quand la vidéo est fausse, elle se passe qu'une seule fois. Et quand elle est vraie, on l'écoute deux à trois fois, quatre fois. Et je n'ai pas le temps d'aller faire ce genre de recherche. Je préfère attendre si la vidéo va se répéter ou bien va s'arrêter là.
Moi, je cherche d'abord à m'informer auprès de personnes qui ont des sources vraies. Par exemple, au sujet de la guerre, je chercherai à me renseigner chez ces personnes qui vivent là-bas à l'Est. Je chercherai à me renseigner chez eux. S'ils me disent que ce qui se passe réellement vrai, là je pourrais confirmer aussi de mon côté.
En ces temps où notre pays traverse une crise avec la guerre à l'Est, il t'est déjà arrivé de voir les vidéos ou photos des exactions des miliciens. As-tu vu cela?
Oui, j'en ai vu et j'en ai entendu.
Qu'as-tu fait de ces vidéos ou de ces photos?
Bon, j'ai essayé de la partager pour faire savoir aux autres que notre pays n'est pas en bon état. Nos frères et sœurs qui restent à Goma là-bas sont en train de pleurer. Et une fois là, j'ai demandé à des familles, nos proches qui restent là-bas. Ils ont dit vraiment que Dieu puisse les regarder seulement.
Moi, je cherche d'abord à rassurer les gens. Par exemple, dans les commentaires, quand je vois des vidéos dans les commentaires, je me pose d'abord des questions. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi vous vous agitez comme ça sans et pourtant connaître ce qui se passe vraiment pour toi? C'est vrai qu'il y a la guerre au pays, mais il y a d'autres informations. Elles sont fausses. Il y a des gens qui exagèrent sur d'autres points.
Bon, en tant que citoyen de ce pays, quand je reçois ce genre de vidéo, je la partage pour partager l'émotion que tout Congolais ressent en ce moment. Et on peut pas dire que les vidéos sont vraies, donc j'essaie de me rassurer que c'est vrai avant de les partager.
Moi, lorsque je vois ce genre de vidéos, pour partager ma peine, en fait, je partage la vidéo et j'essaie de l'envoyer aux personnes en fait qui me sont proches afin de leur faire comprendre ce que j'ai ressenti lorsque j'ai vu la vidéo.
Penses-tu que les faits montrés sur ces vidéos et photos sont véridiques?
Je ne sais pas. Ça peut être vrai, ça peut aussi être fausse.
Bon, je viens de dire, ça peut être vrai tout comme ça peut être fausse, mais vu que j'ai eu le temps de me renseigner et de confirmer la chose en question, je dirais que c'est vrai.
Comme pas tous, certains d'entre eux sont fausses, certains sont vrais. Voilà pourquoi je préfère me renseigner avant de pouvoir les publier.
Qu'est-ce que cela t'a fait en voyant ces images? Tu avais quel sentiment en regardant ces vidéos?
Étant que citoyenne congolaise, j'avais vraiment mal. Bon, vu que tu penses aussi à ceux qui sont là-bas, à ceux qui peuvent vivre, tu t'imagines à leur place. Donc l'équerre sera toujours attristé. Même si tu veux manger, tu te penses, ah, il y a ma famille là-bas. Est-ce qu'ils sont toujours en vie ou comment? Tu commences à te poser plusieurs questions, donc ça stresse.
Moi, premièrement, ça m'énerve d'abord. Et ça me rend aussi triste parce que mon pays, c'est un grand pays, un beau pays, très riche. Mais il n'y a personne de, comment dire, de courageux pour défendre ce pays.
Bah, nous sommes des humains, donc c'est normal, ça nous attriste. Certains moments même, on se demande pourquoi cette guerre existe.
Moi, je dirais que ça m'a vraiment fait de la peine de voir qu'il y a des êtres humains comme moi qui sont en train de souffrir, qui perdent leurs frères et sœurs et tout, qui sont en train de perdre la vie. Moi, sincèrement, ça me fait vraiment de la peine et ça me fait vraiment mal.
Pourquoi t'es senti obligé de partager ces genres de vidéos et photos?
Parce que je ne peux pas garder l'information pour moi tout seul. Dès que je vois cette vidéo, peut-être il y en avait d'autres qui n'étaient pas informés. Le fait que je puisse partager, une personne qui était peut-être distraite et qui ne savait pas, en voyant ces vidéos, il s'est dit, oh, donc il y a ceci qui se passe quelque part. Lui aussi, il va essayer de le partager. Le fait de partager là, tout, je pourrais dire, il y aura un bon nombre de gens qui pourront être informés. Et puis, vu qu'ils sont informés, ils pourront aussi savoir comment se protéger. Quand ils se protègent, comme ils disent, il y aura marche de ville morte. Vu l'information que je partagerai, il y en a d'autres, s'ils ne savaient pas que la ville serait morte, vu ces informations-là, pourraient rester à la maison et se sécuriser aussi.
Personnellement, je ne les partage pas. Je préfère les garder parce que je peux partager une vidéo pendant qu'elle est fausse et ça va se retourner contre moi. Donc, je préfère juste rester comme ça.
Moi, je partage ce genre de vidéos en fait pour permettre aux gens d'être au courant des informations du pays, par exemple, d'être au courant de ce qui se passe.
Sais-tu qu'aujourd'hui, à l'aide de l'intelligence artificielle, il est possible de monter des vidéos qui semblent être vraies alors qu'elles sont fausses?
Oui, là, je l'ai essayé. Il y a des montages qui se font. Une fois aussi, on l'a fait par l'un de mes proches aussi. C'était une vidéo là qui semblait paraître vraie, mais qui était fausse. Bon, je l'ai juste nié. On n'a pas pu réagir. On s'est dit, pourquoi vivre dans un monde qui les gens veulent tromper les autres? Ça n'a pas vraiment été bon.
Oui, je sais qu'il y a des vidéos montages qui sont vraiment très élaborées. Donc, c'est plus facile de mentir aux gens, de montrer des fausses images, de donner des fausses informations pour inquiéter les gens, pour faire croire aux gens qu'ils sont en danger.
Bah oui, ça, je sais que ça existe parce que il y a l'un de mes amis qui a eu à faire une vidéo montage et j'étais étonné de voir qu'il pouvait faire ce genre de choses. Alors, cela n'a pas seulement été pour moi de l'étonnement, mais aussi, je me suis senti un peu ignorant de certaines choses parce que ça pourrait être possible qu'un jour, que ça soit de la même manière qu'il a eu à faire cette vidéo pour quelqu'un d'autre. Peut-être qu'un jour, ça pourrait être moi ou peut-être qui d'autre. Alors, moi, je trouve que c'est pas vraiment une très bonne idée de faire ce genre de choses, en fait.
Est-ce que tu connais que la désinformation est une arme de guerre au même titre que les bombes, les grenades et j'en passe?
Oui, oui, parce que déjà, lorsque il y a des vidéos, par exemple, sur quelqu'un ou sur la personne où on insulte ou on dit des choses négatives sur une personne, cela peut toucher, en fait, la réputation de la personne qui peut aussi détruire, en fait, la personne.
Quelles sont les conséquences de la désinformation dans un pays en guerre?
Il y a d'autres informations qui peuvent être fausses, puis ça va commencer à créer des embrouillements, la peur et des inquiétudes dans la vie de certaines personnes.
Actuellement, là, il y a plusieurs Congolais qui ont peur à cause de la désinformation.
Ouais, je dirais toujours il y a la peur parce que le fait d'avoir des informations qui ne sont pas vraies, plusieurs personnes entendent ça. Je vais entendre que, oh non, à cause de celui-ci, il était sorti et il n'est pas revenu. Peut-être c'était une fausse information, il s'était égaré. Et toi, quand tu as su ça, vu que tu ne t'es pas vraiment informé, tu commences à avoir des palpitations. Peut-être tu pourrais tomber aussi malade. À cause de cette désinformation-là, on t'est presque dit une chose là que tu ne savais pas directement là. Tu fais un cheat là et puis...
ça ne va pas.
Plus à cause de la désinformation, il y a des gens qui pensent que le Congo, c'est un pays qui est toujours en guerre, les gens ne sont pas à l'aise, les gens ne vivent pas bien, alors que c'est un beau pays. Je pense qu'on devrait arrêter cela. Parce que des fois, quand on entre sur Internet, il y a des gens qui écrivent, par exemple, on parle de visite Congo, il y a des gens qui écrivent, ah, je ne veux pas aller dans ces pays, il y a toujours la guerre. La désinformation, c'est pas bien, parce que nous qui vivons ici, nous savons que c'est vrai qu'au Congo, il y a des problèmes, mais pas jusqu'au point de dire que c'est un pays de merde. Donc la désinformation crée un peu ce genre de choses.
La désinformation est mal parce que parfois ça salit l'image de quelqu'un et ça trouble le pays dans certaines choses.
Après avoir écouté les jeunes, passons cette fois-ci aux parents. Et c'est avec Ezekiel Mouzalia qui s'entretient avec Madame Winnie Lengali, mère de 7 enfants. Elle affirme toujours discuter avec ses enfants de la désinformation et fait de son mieux pour ne pas qu'ils soient auteurs de la désinformation. Suivant.
Bonjour Madame.
Oui, bonjour.
Vous appelez comment ?
Je m'appelle Winnie Lengala.
Et vous avez combien d'enfants, madame ?
J'ai 7 enfants.
Alors, comment vous protégez vos enfants des méfaits de la désinformation ? Vous savez, nous sommes dans une région des troubles, dans une région des guerres, dans une région des turbulences sur les plans sécuritaires et tout. Comment vous protégez d'abord vos enfants des méfaits de la désinformation ?
Premièrement, mes enfants, quand ils viennent pour m'informer, « Maman, est-ce que tu as pris ceci à Goma, tout ça ?» Bon, moi, étant qu'une mère, pour ne pas stresser encore les enfants, je leur dis, non, ce sont des anciennes images, ne vous fiez pas sur les réseaux, parce que tout le monde peut publier n'importe quoi et n'importe quand. C'est un peu ça. Vraiment, j'inculque à mes enfants de ne pas se fier à ces images. Ils peuvent voir ça, mais ne pas accepter, parce que tout le monde peut balancer n'importe quoi dans les réseaux.
Surtout hein, quand ils sont à l'école, ils sont à côté de leurs collègues et ouais. Tout, qui leur racontent ce qu'eux aussi ont appris de leur part.
Tout ça, ça vraiment, c'est un grand problème. Nous, parents, nous devons avoir vraiment une grande responsabilité, surtout dans cette période. On n'est pas là pour stresser les enfants. Parce que moi-même, je suis une victime de ça. Quand j'étais à l'âge de 7 ans, j'ai vécu ce phénomène. Là, c'était en live. Il n'y avait pas moyen que les parents nous protègent parce qu'il y avait des affrontements entre les Rwandais et puis les Angolais à l'époque. C'était en 97. Et je vous dis, actuellement, quand on a appris que Goma était tombé, tout ça, bon, on n'a vraiment pas de vraies informations. Et quand moi-même, j'ai appris ça, j'étais vraiment traumatisée. C'est que j'ai vécu en 97.
Traumatisme, là, les anciennes
traumatisme,
images.
Mais là, j'ai vécu, là, je l'ai encore vécu toute la nuit. Vraiment, c'était atroce, vraiment. Je demande aux parents de ne pas appuyer ou bien de ne pas donner surtout les informations qui ne sont pas vérifiées et qui ne sont pas acceptées par rapport ou bien qui ne sont pas publiées par les médias crédibles.
Avec toutes ces images justement affreuses des guerres, hein, toutes ces images d'hostilité des guerres à l'est du pays qui circulent sur les réseaux sociaux, comment démêler des faux, des vrais ?
Moi je pense que pour le moment il y a trop des images. Des fois nous voyons, oh, on a le Goma a été attaqué, l'aéroport c'est entre les mains des M23. Les autres disent que non, c'est entre les mains des FARDC. Moi, je pense que moi, personnellement, je méfie toujours aux médias crédibles. Par exemple, si la radio Okapi communique, là, j'accepte.
Comment vos enfants réagissent justement face à toutes ces images hostiles, d'horribles qu'ils font ?
La réaction n'est pas bonne, parce que mes enfants sont aussi des Goma. Leurs origines, c'est Goma. Nous avons aussi une grande famille à Goma. Aujourd'hui, si mes enfants voient tous ces affrontements qui se passent dans la ville de Goma, je pense que leur mémoire, leur attitude ne sera pas bonne.
C'est que vous vivez avec des enfants ici, mais oui. La famille élargie se trouve à Goma.
Oui, c'est à Goma, oui. Parce que même les jours où on a appris que Goma a été tombé, nous avons essayé de parler à la famille à Goma, bon. il y avait des plaires, des balles, de tout ça. Mes enfants s'y étaient présents. Mais je leur dis toujours, non, ce sont les FARDC qui chassent les Rwandais, il n'y a rien, tout ça.
Une façon de les apaiser un peu.
Oui, de les apaiser. Actuellement, ils apprennent, bon, avec les téléphones Android, il y a tout. Maman, on a pris ceci, ceci. J'ai dit non, les FARDC se contrôlent. Mais moi-même, je sais que, bon, peut-être ça ne va pas. Mais comme ils sont encore des enfants, on doit savoir comment les gérer.
Vous avez un conseil, des conseils à donner aux gens, aux parents qui sont peut-être dans cet état, ou bien qui peuvent se retrouver hein, dans un état comme celui-là, où les enfants sont traumatisés, sont vraiment stressés hein, de ce qu'ils entendent dans leur région.
Bon, moi, je pense que, étant que parent, comme responsable, je vais demander aux autres parents d'apaiser les enfants. Même si on sait consciemment que ça ne va pas. Là, on le sait. Mais étant que parent, nous ne voulons pas ce que nous avons vécu, que nos enfants aussi, que nos enfants puissent les vivre actuellement. Ça ne sera pas bon. Parce que nous-mêmes, nous avons des traumatismes, de la guerre. Alors, étant que parent, je peux conseiller aux autres parents. Si un enfant vient pour dire non, maman, j'ai vu ça, papa, j'ai vu ça, mieux vaut de les calmer en disant que non, les efforts de ce contrôle, il n'y a rien. Comme moi, je l'ai fait à mes enfants.
Merci, madame.
Merci beaucoup.
Un autre parent, c'est monsieur Tichik Sebeli, père de 4 enfants. Il nous explique comment il préserve ses enfants de la désinformation. Il conseille à d'autres parents comme lui à faire très attention aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux et de ne surtout pas laisser les enfants en être exposés. Il est également au micro de Ezekiel Mozalia.
Bonjour monsieur.
Oui, bonjour Ezekiel Mozalia.
Alors, vous pouvez vous présenter?
Oui, je suis Tichik Sebeli.
Vous êtes justement au courant hein, de tout ce qui se passe dans la ville ou bien dans notre région. Par rapport à la désinformation, vous savez, il y a des informations qui circulent, qui inondent les réseaux sociaux. Comment vous vous faites pour protéger les enfants?
Oui, par rapport aux informations qui désaffectent aujourd'hui notre contrée, surtout dans des réseaux, dans le contexte de la guerre, il y a aussi trop d'exagérations sur les réseaux sociaux. Alors, si l'information sort dans ma maison avec les enfants, je peux l'expliquer que cette information n'est pas vraiment fiable. Il faut d'abord commencer à vérifier chaque information, on les vérifie et puis on peut informer encore d'autres gens qui sont informés aussi.
Avec toutes ces images horribles hein, des guerres de l'Est du pays qui circulent hein, sur les réseaux sociaux, comment démêler ou bien comment choisir les vrais du faux?
Mais il faut se renseigner aux sources parce qu'il y a des journalistes qui ont fait le journalisme. Ce sont eux qui seront vraiment à la page pour nous expliquer tout ce qui se passe dans des réseaux, tout ce qui se passe dans le monde. Je pense que ce n'est pas à nous de donner les formations comme des radios trottoirs. Non, il faut donner l'information qui est fiable et vérifiable.
Comment réagissent par exemple les enfants face à ces images? Les enfants qui tombent sur des images d'hostilité, des images horribles là.
Il y a parfois des émotions, hein, des émotions. Parfois quand ils voient on a coupé quelqu'un, bon, il y a des informations qui donnent vraiment des hautes tensions qui n'est pas vraiment une bonne information qu'on peut montrer à tout le monde. Donc il y a d'ontologie dans chaque science. Dans chaque science, il y a la d'ontologie.
Mais est-ce qu'ils sont énervés, par exemple, ou bien ils sont révoltés quand ils voient des images pareilles?
Oui, ça énerve, ça révolte aussi les gens à faire des manifestations. Tout ce que nous voyons dans des réseaux, ça peut énerver quelqu'un, même nos enfants. Ça énerve les gens, vraiment, ça énerve.
Oui. Et vous faites comment pour les rassurer ou bien les calmer hein, pour qui ne s'adonne pas à des troubles hein, tels que ce qu'on voit dans notre contrée.
Oui, et surtout comme je suis le fan de la radio Capi, je dis qu'il faut attendre à 18h, à 20h, quand on donne les informations ou les flashs des infos. Nous allons rassurer qu'il y a vraiment des bonnes informations qui se donnent à la radio.
Et vous avez combien d'enfants?
J'ai 4 enfants.
Selon vous, pourquoi le gouvernement interdit la diffusion des vidéos et photos hein, qui circulent sur Internet?
Parce que ce n'est n'est pas une bonne chose. Si le gouvernement empêche cela avec raison, il y a, quand nous grandissons, il n'y avait pas des images comme ça. Mais aujourd'hui, allez-y comprendre avec la technologie, le monde avec son évolution très rapide. Et je crois qu'il y a des vidéos, il y a des médias, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, pour nous, vraiment, il faut garder bien nos enfants, à donner une bonne, très bonne éducation.
Quel conseil, pour finir, vous pouvez donner à d'autres parents, à ceux-là, peut-être qui sont dans des régions rouges, des régions de guerre et tout, quel conseil vous pouvez donner au regard de l'importance justement de ces sujets, les méfaits de la désinformation sur l'état psychologique des enfants?
Oui, les méfaits des informations, il faut vraiment donner les informations, comme je l'ai dit tantôt, il faut donner les informations fiables. En vérifiant les informations, moi, en tant que parent, je peux maîtriser les enfants de ne pas être paniqués, qu'ils ne fassent pas trop de bruit quand ils voient une chose comme ça. Il faut avoir des sources et des informations, c'est tout ça.
Et cette source, ça peut être vous, hein, leur père ou bien?
Oui, moi, bon, je ne suis pas journaliste, allez-y comprendre. Il faut avoir des informations auprès de ceux qui ont fait des formations comme vous là, et attendre de vous les informations qui sont fiables.
Merci, merci.
Je vous remercie.
Chers auditeurs, clôturons cette première partie telle que nous avons commencé et on se retrouve après les informations.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Nous sommes de retour après les infos et heureux de vous retrouver. Nous parlons aujourd'hui du danger de la désinformation en temps de guerre. En effet, la désinformation en temps de guerre est une arme au même titre que les grenades, obus ou le bombe. Si ces armes tuent directement les hommes, la désinformation, elle, façonne comment le monde perçoit un conflit en minimisant les souffrances réelles, en facilitant la perception des autres comme l'ennemi. La désinformation est une menace directe pour les droits de la personne et de la démocratie. Nos experts, notamment un psychologue et un journaliste œuvrant dans une structure de lutte contre la désinformation, vont nous parler de ce sujet. À la présentation de ce magazine, je suis Sarah Sombela. La mise en onde est assurée par Dieudonné Nyangasa, tandis que Polydor Basunga est à la prise de son. Une réalisation de Gisèle Cage et Stanislas Diomi, sous la supervision de Jean-Marc Matoki Mofelele, Dijana. Chers auditeurs et auditrices de la fréquence de la paix, l'impact de la désinformation en temps de guerre n'est plus à démontrer. Nous l'avons vécu avec la guerre de l'Ukraine et la Russie et nous la vivons encore dans notre pays avec cette guerre d'invasion de M23 appuyée par le Rwanda. Quel rôle joue la désinformation en ces temps de crise? Nous recevons pour vous Monsieur Christian Malélé, journaliste et membre de la structure Lokuta Mabé. Il répond aux questions de Stanislas Diomi.
Monsieur Christian Malélé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur doctorant à l'Université des sciences de l'information et de la communication UNISIC. Vous êtes également journaliste spécialisé dans la vérification des faits à Lokuta Mabé, une plateforme qui traque les fausses nouvelles en RDC. Alors, l'émission Bana Okapi parle du danger de la désinformation en temps de guerre. Et d'après vous, quelles sont les conséquences de la désinformation en temps de guerre?
Alors, la première des choses, il faut d'abord saisir la définition de la désinformation.
Oui, oui.
La désinformation, c'est une fausse information véhiculée volontairement, induire la masse en erreur. Donc, l'objectif, c'est d'écouter la masse et manipuler la conscience de la masse et désorienter et faire prendre de mauvaises décisions. Alors, ça touche premièrement la psychologie humaine. Donc, ça déstabilise moralement. Donc, lorsque vous recevez par exemple des informations, et des informations surtout pendant la période des guerres, donc ce sont des informations qui annoncent généralement la terreur. Donc ça fait peur, donc ça déstabilise moralement. Quand vous regardez par exemple des images ou des vidéos montrant de morts, des personnes blessées, des enfants qui pleurent, qui ont été orphelins, donc des scènes chaotiques, ça vous déstabilise d'abord moralement. Et ça peut provoquer d'autres maladies aussi. Et sur le plan physique maintenant, ça peut vous conduire à prendre de mauvaises décisions. Par exemple, abandonner son travail pour se réfugier dans une autre contrée ou se rendre dans un autre pays. Donc le fait déjà d'abandonner son travail, ça déstabilise sa famille. Les enfants ne vont plus étudier, ils vont arrêter les études. Et comment est-ce que vous allez survivre si vous n'avez pas des provisions ou si vous n'avez pas une réserve en banque? Donc c'est déjà les conséquences qu'on peut voir directement découlant de la désinformation ou du phénomène de fausses informations.
Mais monsieur Christian, pourquoi les partis en conflit utilisent la communication dans la guerre?
Alors, ils utilisent la communication pour, selon moi, je dirais pour trois objectifs. Le premier objectif, c'est pour montrer au camp adverse ou au monde leur force ou leur puissance, en sélectionnant des faits. Mmh. Parce qu'ils ne vont pas publier leurs échecs, là c'est évident. Ils vont juste choisir des événements ou des faits où ils ont réussi, où ils ont conquis des terres, où ils ont avancé, ils ont fait des exploits. Donc, ils procèdent par des sélections, des événements et des faits pour montrer au camp adverse ou au monde que leur groupe est fort ou leur organisation est forte. Et le deuxième objectif est pour propager la terreur ou intimider. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Donc, c'est pour dire au camp adverse que vous êtes faible et il faut abandonner pour vous regrouper, par exemple, dans tel endroit pour déposer les armes, pour vous démobiliser. Donc c'est pour faire peur. Donc faire peur non seulement au camp adverse, mais aussi à la population. Donc c'est vraiment ça l'un des objectifs de la communication pendant la période de guerre. Et le dernier, c'est pour montrer leurs intentions. C'est pour, par exemple, dire à la population que non, nous sommes là pour vous. On cherche, par exemple, à libérer tel endroit, à vous libérer des dictateurs, de vous libérer de la pauvreté, vous libérer de telle ou telle autre chose. Donc, il véhicule ce genre d'informations, selon moi, par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc, selon ces trois objectifs.
Et est-il possible que les vidéos et photos de la guerre de l'Est de notre pays soient truquées dans le but d'effrayer la population et de leur faire adhérer dans une idéologie quelconque?
Exactement. Nous avons vu plusieurs vidéos, par exemple, de groupes rebelles où on veut faire croire à la population ou à l'opinion internationale, par exemple, que les populations qui se trouvent dans des territoires occupés se sentent mieux. Tout va bien et ils sont en sécurité et la vie continue à avancer pas comme auparavant et tout, et ça peut laver le cerveau d'autres personnes ou de la population pour leur faire croire que non, tout va bien et on peut accepter telle ou telle autre chose, on peut prendre telle ou telle autre décision. Donc c'est vraiment des faits qui sont réels et qu'on peut observer durant cette période de crise dans la partie est de la RDC.
Avec l'avènement de réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui sont diffusées, hein, que ce soit sur Facebook, TikTok, WhatsApp et j'en passe. Monsieur Christian, en tant que chercheur aussi, comment on peut vérifier la véracité d'une information, surtout en cette période de guerre où chacun a sa version de fait?
Ouais, il faut d'abord commencer par définir les auteurs des fausses informations. Il faut savoir qui véhicule les fausses informations pendant la période de crise ou de guerre. Nous avons premièrement les États. Quand je parle des États, je fais allusion au gouvernement. Le deuxième acteur, c'est les médias. Et le troisième acteur, c'est la population. On n'est pas parlé des internautes. Alors, ils utilisent des images et des vidéos détournées, par exemple pour se victimiser, pour terrifier, pour diviser les communautés, pour appeler au soutien à leurs actions. Donc, ils génèrent même de faux propos ou des propos attribués des anciennes déclarations retirées sur les réseaux sociaux pour déstabiliser un camp ou salir l'image de quelqu'un, d'un politique ou d'un groupe, d'une communauté quelconque. Mais pour vérifier ces genres de contenus, il faut juste se poser de bonnes questions. Qui a publié l'information? Elle provient de qui? Est-ce une source fiable? Est-ce que la déclaration est cohérente? est-ce que la déclaration d'image, la vidéo ou l'audio est actuelle ou date de très longtemps? Que disent les sources indépendantes? Donc, il faut toujours croiser les sources pour savoir qui livrait parmi tous ces acteurs. Donc, il faut vraiment croiser des sources, utiliser des informations récentes, des données récentes, des études aussi, parce qu'ils utilisent même des études, des statistiques, et écouter, je dirais, tout le monde. Donc, tout le monde, les acteurs impliqués dans le conflit.
Il s'avère que j'ai une vidéo sur WhatsApp ou Facebook que j'ai reçue. Et si je publie la vidéo, la même vidéo qui m'a été envoyée, je serai responsable d'une désinformation?
Exactement, qu'on est responsable lorsqu'on véhicule une fausse information, que ce soit inconsciemment. Mm-hmm. On est responsable. Pourquoi on est responsable? C'est parce que les conséquences seront les mêmes.
Ok.
La personne qui a diffusé une fausse information pour induire en erreur volontairement et la personne qui a relayé une fausse information involontairement, c'est la même chose parce que la conséquence ou les conséquences seront les mêmes. Donc, en quelque sorte, je dirais qu'elle est aussi responsable du désastre causé par cette fausse information partagée sur Internet ou à travers le média. Raison pour laquelle il faut toujours vérifier une information avant de la relayer. Donc, ne pas être pressé à diffuser une information parce que ça vous arrange, que c'est avantageux à votre camp politique ou consort. Donc, il faut vraiment se réserver, authentifier l'information, et rassurer vraiment de la véracité des faits avant d'informer l'entourage.
Et si la vidéo est vraie, mais que je publie dans le but d'alimenter la haine ou d'effrayer la population, cela aussi est une désinformation?
Bon, en quelque sorte, non, mais il faut savoir qu'il y a quand même des conséquences derrière ces gens des actes. Parce qu'en période de crise ou de guerre, par exemple, la fausse information, c'est une arme de guerre. Tout comme l'information est une arme de guerre. Parce que le contexte, je dirais, est lié à la violence. Alors, si vous disiez, par exemple, une vraie information, mais pour attirer la haine, il faut savoir que cette vraie information, c'est une arme semblable à une arme à feu, à une arme blanche ou à une bombe atomique. Il faut aussi savoir qu'il y a vraiment des dégâts derrière ce genre d'information. Donc, et les dégâts sont vraiment imprévisibles. Parce que ça peut non seulement inciter à la haine, mais aussi inciter à la violence. Et quand ça incite à la violence, ça peut toucher la vie humaine. C'est déjà un dégât imprévisible. Et la dernière des choses, c'est que ces genres de discours alimentent des tensions. Et ces tensions ont tendance à durer dans le temps, au-delà même de la période de guerre. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez véhiculer une vraie information, mais pour inciter à la haine, et il faut savoir que ça peut dépasser même la période des guerres. Et ça peut vraiment durer dans le temps et produire des conséquences dans le temps.
Et dans les cas où nous sommes en possession d'une information vraie mais sensible, qu'est-ce qu'on doit faire? Faudra-t-il la diffuser ou la gérer?
Oui, il faudrait d'abord tenir compte du contexte. Mmh. Donc si l'information est très sensible, il faut se dire dans quel contexte sommes-nous? Est-ce que diffuser cette vraie information va permettre à la communauté à évoluer ou ça va encore régresser l'évolution de la communauté? Donc, il faut toujours tenir compte du contexte. Et la deuxième des choses, il faut faire l'autocensure. Donc, il faut se dire, est-ce que cette bonne information peut troubler l'ordre public? Et si la réponse est oui, je vous conseillerais de ne pas la publier. Parce que vous pouvez publier une vraie information, mais qui crée des désastres plus que même de fausses informations. Parce que le contexte est déjà, bouleversant. Et une autre chose, c'est qu'il faut chercher des mots et la manière pour dire cette information, ou pour annoncer cette information. Donc, si vous manquez des mots et la manière pour diffuser cette information, alors mon dernier conseil, c'est qu'il ne faut pas la publier.
Très bien. Et quels sont les moyens pour protéger les jeunes de la désinformation?
Alors là, il faut sensibiliser les jeunes sur les dangers des fausses informations. Donc, il faut multiplier des conférences, des formations ou des ateliers pour sensibiliser les jeunes sur les dangers des fausses informations, surtout pendant des périodes de crise. Et une autre chose, c'est qu'il faut apprendre à la jeunesse comment vérifier des informations sur Internet ou à travers le média. Donc, je dirais des connaissances juste basiques sur la vérification des faits ou la vérification des informations. Autre chose, c'est qu'il faut vulgariser les lois du pays qui régulent les secteurs de l'information et de la communication. Nous avons par exemple la Constitution, nous avons les codes numériques, nous avons les codes pénals congolais, nous avons aussi les codes militaires. Donc il y a plusieurs lois qu'il faudra vraiment vulgariser pour rendre responsable le jeune sur les réseaux sociaux ou à travers les médias.
Monsieur Christian Malélé, je rappelle que vous êtes chercheur doctorant à l'Université des sciences de l'information et de la communication. Vous êtes également journaliste spécialisé dans la vérification de faits à Lokutamabe, une plateforme qui traque les fausses nouvelles en République démocratique du Congo. La Radio Capi vous remercie d'avoir répondu à toutes ces questions.
Je vous en prie et merci pour l'invitation.
Pour parler des effets de la désinformation chez les jeunes en temps de guerre, nous recevons le psychologue Davis Tukchina. Il est au micro de Ezekiel Mozalia.
Monsieur David Tukchina, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Vous êtes psychologue également, hein, assistant à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation à l'université de Bounia. D'abord, pouvez-vous nous dire quelle est la source de la désinformation, surtout en temps de guerre, dans une zone en proie au conflit?
La source de la désinformation en un milieu en proie au conflit, donc en temps de guerre, ce sont des rumeurs. Et qui dit rumeurs, ce sont les fausses informations et qui peuvent être propagées très rapidement si les gens crédibles en qui on a confiance, ces désinformations. Autrement dit, ce sont des manipulations provenant de certaines personnes qui ont des intérêts peut-être particuliers.
Et qu'est-ce qui cause justement la désinformation? La cause, c'est quoi?
La cause de la désinformation, comme je venais de le souligner tantôt, c'est tirer profit pour dissuader une couche de la population et même créer même des conflits entre certaines communautés pour en tirer profit. C'est pourquoi vous allez aujourd'hui, par exemple, sur nous avons un canal de communication qui est très, très en vogue, les réseaux sociaux. Sur WhatsApp, les gens peuvent propager des fausses nouvelles juste pour intoxiquer un camp contre un autre.
Au début, vous aviez justement parlé des rumeurs et la désinformation. Est-ce que vous pouvez établir un peu une différence entre une rumeur et une fausse information?
La différence comme telle est nuancée. Pourquoi? Parce qu'une rumeur, d'abord, c'est une information fausse qui a tendance toujours à nuire ou bien à faire profiter une personne ou un groupe de personnes contre l'intérêt d'autres groupes. Tandis que la désinformation, c'est exactement ces messages-là, ces messages qui sont véhiculés à travers les différents canaux, notamment la radio, la télévision. Aujourd'hui, nous avons le phénomène TikTok, les gens tournent des images juste pour soulever les gens et carrément en profiter.
Comment la désinformation affecte surtout le mental, l'état d'esprit des gens, surtout dans ces contextes de guerre, entre autres les enfants justement qui sont en train de voir ce qui se passe dans notre région?
La désinformation, comme je venais de le dire, c'est des fausses informations, mais qui courent très rapidement et auxquelles les gens ont toujours tendance à croire. Alors, les conséquences de cette désinformation sont multiples. Vous venez de citer une catégorie vulnérable. Les enfants, par exemple, peuvent être affectés négativement sur leur plan mental, donc leur état d'esprit. Souvent, lorsque on prête au flanc à des rumeurs, les enfants qui sont censés être protégés par les aînés peuvent développer certains troubles, notamment l'anxiété. Nous avons la peur. Ils peuvent développer la dépression. Donc, des petits traumatismes qui peuvent ronger leur psychisme, même leur corps au fur et à mesure qu'ils évoluent.
C'est une question supplémentaire. À quel âge un enfant peut être affecté par une mauvaise information?
Dès lors que l'enfant déjà englobe, sait déjà discerner le bien et le mal, c'est à partir de l'âge de 9 ans où l'enfant sait même qu'on est en train de le tromper ou pas. Alors, c'est une tranche d'âge très capitale, très critique, parce qu'on peut tromper l'enfant d'une année, mais arrivé à un certain âge, 3 ans ou plus, l'enfant est, on ne peut pas tromper. Et lorsque l'enfant croit à une mauvaise information, automatiquement, cette mauvaise information-là l'affecte. D'ailleurs, quand vous donnez un enseignement à un enfant, et lorsque vous enseignez des hérésies, l'enfant va capter ce qui est mauvais et laissera ce qui est bon.
Qu'est-ce qui fait que les jeunes soient plus affectés par la désinformation?
Les jeunes peuvent être plus affectés par la désinformation. Pourquoi? Parce que c'est une tranche d'âge qui a toujours cette velléité d'apprendre et qui a toujours cette tendance à vouloir devenir, aspirer à un meilleur devenir.
C'est tous les jeunes de notre
milieu. Tous les jeunes de notre milieu qui sont pour la plupart désœuvrés. Ils peuvent prendre une fausse information pour une vraie information, juste pour peut-être avoir des jobs.
Vous aviez suivi, hein, même à Goma, lors de la guerre, il y a certains parents justement qui ont eu peur. Ils ont préféré de garder les enfants à la maison. Cette peur, est-ce qu'elle est aussi une conséquence, hein, de la désinformation?
La peur est une conséquence à part entière de la désinformation. Pourquoi? Parce que déjà quand on a peur, on peut enfreindre certaines activités. Voilà que la journée, par exemple, d'hier a été tournée au ralenti, par exemple, en ville de Bounia, juste à cause de certaines rumeurs, la désinformation, les infox, comme on le dit en vogue actuellement.
Comment maintenant utiliser les jeunes, ces mêmes jeunes-là, comme agents pour lutter contre ce fléau?
Je pense que l'utilisation des jeunes pour lutter contre la désinformation doit passer par d'abord la recherche de la vraie source de l'information et le discernement. Chez nous en sciences, l'esprit scientifique exige qu'on puisse avoir d'abord l'esprit de doute et la vérifiabilité des informations.
Qu'est-ce qui fait que la désinformation engendre des soulèvements populaires, et surtout dans les cas, par exemple, ce qui s'est passé récemment dans notre pays, où l'annonce des fausses rumeurs, de la chute d'une ville.
Merci, ça c'est une question d'actualité. La désinformation engendre le soulèvement. Pourquoi? Parce que les gens peuvent penser avoir confiance à une très bonne information. Et pourtant, c'est une fausse information. Parfois, ça fait en sorte qu'on se révolte, on s'en prend aux gens qui sont des diffuseurs de fausses informations ou de fausses alertes. Aujourd'hui, par exemple, on peut dire non, la ville de Bounia est entre les mains de tel groupe ou X, Y groupe. Mais dès lors qu'on n'a pas la vraie information, la vraie réalité, parfois ça décrédibilise les fausseurs des informations. C'est pourquoi ça engendre parfois des conflits entre les personnes des mêmes familles.
Pour finir, est-ce que vous avez des faits où la désinformation a suscité peut-être un soulèvement, où la désinformation a poussé peut-être certains enfants, certains parents d'adopter un comportement vis-à-vis de leurs enfants et tout, et un message que vous voudriez bien placer à l'opinion?
Oui, j'ai des exemples probants. Pas plus tard qu'hier, quand il y avait des fausses rumeurs selon lesquelles la ville de l'Ituri serait entre les mains des miliciens. Et cela a fait en sorte que certains parents ont gardé les enfants avec eux à la maison et pénalisant ces enfants sur le plan éducationnel, mais aussi sur le plan émotionnel. Ça affecte leur état d'esprit et puis leur santé mentale. Alors, les informations, des fausses informations sont de nature à détruire. Donc, si les informations ne sont pas bien vérifiées, ça peut prêter le flanc à des rumeurs et ça peut créer, par exemple, les désagréments. On a vu les activités socio-économiques, éducationnelles et même sanitaires tourner au ralenti. Donc, j'encourage les jeunes, les leaders d'opinion surtout, les gens qui peuvent relayer facilement les informations, les gens à qui on a confiance de pouvoir donner les informations qu'ils ont déjà eu à vérifier. Par exemple, on peut citer Selo Source Tel, Selo Radio Kapi, Selo Radio Mwangaza, Selo Radio X et Y. Ça serait une très bonne chose, ça épargnerait des gens à des soulèvements inutiles, à des paralysies inutiles pour les activités au niveau de la communauté.
Monsieur David Tuktunya, je rappelle que vous êtes assistant à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation à l'université de Bounia. Je vous remercie.
À moi aussi de vous remercier et remercier aussi les auditeurs de la radio Okapi. Okapi.
C'est par ici que nous bouclons ce numéro du magazine Bano Kapi de ce jour. Les dangers de la désinformation en temps de guerre étaient au cœur de ce magazine. En effet, la désinformation façonne comment le monde perçoit un conflit en minimisant les souffrances réelles et en facilitant la perception des autres comme l'ennemi. La désinformation est une menace directe pour le droit de la personne et de la démocratie. Ce magazine a été coproduit par Jeff Opela, Ezekiel Mouzalia, Guylaine Kassassia, grâce au réseau le Rachel Kessembangu, André Kitenge. La réalisation a été assurée par Gisèle Cage et Stanislas Diomi sous la supervision de Jean-Marc Matweki Mofelele Dijano. La mise en onde était assurée par Diedone Nyangasa. Polydor Bassong a été à la prise de son, une présentation de Sarah Sombela. C'était un réel plaisir de passer ce moment avec vous. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro passionnant de Bano Okapi. On se dit à très bientôt.